Terre des Hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Mesdemoiselles, Madame, Monsieur, bonsoir. Jean Robin au micro de l'Université catholique de l'Ouest. Je suis ravi d'être en présence de vous tous par l'intermédiaire des ondes de Radio Campus et grâce à la technicité de Étienne derrière la vitre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir dans ce studio un nouvel invité. Aujourd'hui, nous partons dans les Antilles françaises. Nous nous retrouvons tout de suite.
Terre des Hommes.
Madame, Monsieur, bonsoir. Comme je le disais à l'instant, je suis dans le bureau, dans le studio, pardon, je sors de mon bureau, dans le studio avec David Marilus. Bonsoir David.
Bonsoir Jean. Bonsoir Jean.
Alors David, écoute, toi, tu es un invité particulier et je suis très heureux de t'avoir autour de cette table. D'abord parce que tu es un ami depuis 25 ans.
1996.
Voilà, donc ça date. Hein. Et tu vis en Martinique, donc dans les territoires d'outre-mer français. Donc tu es un Français et en même temps tu as cette casquette internationale, c'est quand même les Caraïbes, c'est quand même à 6000 km de la France, enfin de la métropole, dit-on. Et j'aimerais que tu puisses eh bien, te présenter, nous dire ce que tu fais dans ta vie, ce que tu as fait et on va tout doucement arriver. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es à l'Université catholique de l'Ouest, à Radio Campus et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mon cher David, pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, bah, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Pour reprendre une certaine chanson bien connue.
En tous les cas, ben, tout d'abord, je te remercie. Je remercie aussi tous les auditeurs hein, pour ce temps que vous allez passer à m'écouter. Je suis David Marilus, effectivement. Donc, Jean est un ami depuis de longues dates. Je suis un peu produit de l'enseignement agricole. Donc, après toute ma formation jusqu'au niveau du bac à la Martinique, je suis arrivé en métropole. En France hexagonale, plus précisément, où j'ai fait mes études, et puis de tout le domaine agricole, l'horticulture. Et puis j'ai connu les maisons familiales, où j'ai été enseignant, formateur pendant 25 ans, et j'ai été aussi délégué pédagogique, et, directeur d'établissement. Et puis il y a quelques années, j'ai fait des missions à l'étranger, au Cambodge, au Togo et au Salvador pour aider des paysans à créer des structures de maisons familiales. Et puis, il y a 3 ans, je suis parti en Martinique pour être directeur d'un établissement maison familiale rurale. Et puis, depuis 2 ans, j'ai arrêté parce que j'avais envie de me lancer un challenge. Et c'est vrai que, je ne sais pas si j'en se rappelle, mais on en avait parlé quand on était en formation, de dire qu'on pourrait mettre quelque chose en place. J'ai fait un master à Sciences Po Bordeaux, un master international sur la coopération internationale et le développement. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ces jeunes sur le territoire dont je suis originaire, la Martinique, parce qu'il y avait énormément de jeunes qui quittent le territoire. Et quand on arrive en France hexagonale, on est un peu perdu. On se retrouve en sachant pas où aller. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois des aberrations. Moi, en ce qui me concerne, je me souviens, quand je suis arrivé en étudiant, on m'avait affecté à Bordeaux et on m'avait octroyé une chambre de crousse à Pau. Et de la Martinique, sur une carte de France, ça paraît très près. Mais après, quand on est sous le territoire, on se rend compte que c'est d'une grande n'importe quoi. On était un peu blackboulé. Et donc, je me suis dit que quand je revenais dans mon île, c'était pour aider un peu ces jeunes. Et voilà, quoi.
Donc, d'abord, peut-être, David, replacer peut-être l'institution des maisons familiales rurales en France, parce que je pense que nos auditeurs et nos auditrices ne connaissent tous, pas forcément tous ce que c'est, et il y en a dans Maine-et-Loire. Hein. Donc les maisons familiales rurales, nous avons travaillé tous les deux dans les maisons familiales rurales, elles ont été fondées en 1945 par là, 46
1937.
Mmh. Il y en a plus de 500 sur le territoire français.
Tout à fait. Et il y en a autant dans le monde.
Autant dans le monde, d'accord. Et en France, ça regroupe quoi? Environ 100 000 jeunes?
À peu près, ouais, entre 85 000 et 100 000 jeunes, ouais, tout à fait.
De la quatrième technologique jusqu'au BTS, et maintenant on peut même faire un brevet d'ingénieur dans les maisons familiales rurales.
Tout à fait, tout à fait.
Pas seulement en agriculture, tous les métiers de l'artisanat, de l'aide aux personnes âgées, la petite enfance, tous les métiers à peu près sont représentés aujourd'hui en maisons familiales rurales.
Exactement. C'est vrai qu'il y a énormément de choix. L'offre de formation est vaste. Hein. Et ce qui fait la spécificité des maisons familiales, c'est l'alternance intégrative, c'est-à-dire cette alternance qui est très spécifique, où on parle du vécu du jeune et on articule toutes les séquences de cours autour de ce que le jeune a vécu, par le biais de mises en commun, des visites d'appui lors des visites de stage, le vécu, la visite aux parents. Je sais qu'en Martinique, eh bien, on le fait. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, moi qui ai travaillé en France hexagonale, on faisait très peu de visites aux familles. Et j'ai retrouvé ça. On allait rencontrer les jeunes dans leur famille et on voyait les problématiques en lien avec cela. Et les parents faisaient vraiment le jeu, quoi.
Et l'alternance, pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, ce qui est très important de comprendre, c'est que le jeune, grosso modo, est 15 jours à l'école et 15 jours en stage.
Exactement.
Et il apprend divers métiers, selon ses filières, en étant à la fois dans le monde de l'entreprise et à l'école. Et moi-même, je l'ai fait, puisque j'ai fait ce cycle jusqu'au niveau du BTS avant de continuer au CNAM. Et ça a complètement changé ma vie, moi, la maison familiale. Je suis un pur produit des maisons familiales. Je n'aimais pas l'école. Et j'ai appris à aimer, à apprendre grâce aux maisons familiales. Et puis on s'est retrouvés, toi et moi, quelques années plus tard, toi à Saint-Germain-de-Marancel et moi en maison familiale rurale à Saint-Loup-sur-Touée dans le département des Deux-Sèvres, pour suivre notre formation pédagogique, là, notre bac plus 2 en sciences de l'éducation. Et on a vécu des moments fabuleux. Hein.
Absolument, absolument. C'est vrai que les maisons familiales, j'ai appris énormément de choses. Hein. C'est vrai que j'ai commencé à enseigner l'enseignement public en Guyane française. Et après, quand j'ai découvert les maisons familiales, je me suis dit, mais si j'avais connu ça quand j'étais moi-même lycéen, parce qu'il n'y avait pas de maison familiale en Martinique, et c'était un choix délibéré de l'État français de mettre que des établissements publics. Et je me suis dit, mais ça aurait pu, c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu. Parce qu'apprendre en faisant, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. Se réussir autrement, le slogan des maisons familiales. Et je trouve qu'on a récupéré énormément de jeunes qui aujourd'hui sont devenus des hommes, hein, responsables.
Des cadres.
Hein. Ça veut dire que aider les hommes à devenir acteurs à leur propre développement, ça c'est vraiment un slogan qui a plu et qui plaît et qui continue à plaire. Et c'est vrai qu'on trouve énormément de jeunes. La preuve en est, l'apprentissage aujourd'hui a un regain d'intérêt parce que justement, les maisons familiales ont été un des pionniers à créer cette notion d'alternance.
C'est ça. Et dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne, où quasiment du bac au brevet d'ingénieur, on fait pratiquement tout en stage, avec des stages, la France avait un petit peu, peut-être, de mal à accepter ce système où on disait qu'aller en maison familiale, ceux qui ne réussissaient pas dans le système classique scolaire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode que même les établissements publics se mettent à l'alternance et vont chercher dans certaines maisons familiales, l'expertise, car les experts en France de l'alternance, ce sont les maisons familiales rurales.
Absolument, absolument.
Et il faut le dire. Alors, toi, David, après avoir travaillé de nombreuses années en France hexagonale, dans les maisons familiales rurales, notamment en Charente-Maritime, tu es rentré en Martinique, chez toi.
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait? Et surtout, qu'est-ce que tu as observé? C'est quoi ton expertise aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer, notamment en Martinique et en Guadeloupe? Comment tu analyserais ça aujourd'hui?
Aujourd'hui, ma grande stupéfaction, c'est de se rendre compte que chaque année, en Martinique, où je vis, il y a quasiment 5000 jeunes qui s'en vont et qui ne reviennent pas. Ça veut dire que la Martinique, il y a une soixantaine d'années, on faisait une projection d'une île qui aurait 700 000 habitants. La Martinique a été à un moment à 400 000, on ne sommes plus que 350 000. Ça veut dire qu'en 10 ans, nous avons perdu 50 000 habitants, en sachant que la Martinique, le comble, c'est que la Martinique est le deuxième département le plus vieux après la Corse. Wow. Ça veut dire que, en fait, en plus, l'accroissement naturel est négatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de décès que de naissances. Mmh. Il y a énormément de personnes âgées, donc il y a plus de maisons de retraite et des EHPAD qui s'ouvrent que des écoles. Et les jeunes partent et ne veulent plus revenir. Alors c'est ça, en fait, l'idée, c'est de se dire, mais comment faire pour permettre l'attractivité, pour que les jeunes restent sur le territoire et faire revenir ceux qui sont partis et leur trouver afin qu'ils trouvent un emploi.
Mais qu'est-ce qui se passe alors? Parce que quand on pense Martinique, Guadeloupe, Guyane française, mais notamment la Martinique et la Guadeloupe, on pense à quoi? La mer bleue, les Caraïbes, la plongée sous-marine, on pense au tourisme rural, au tourisme de la plage, on pense aux petits ponches, on pense à un paradis où il fait bon vivre, où les gens sont en t-shirt toute la journée et où il y a du business lié à l'agriculture, l'exportation de bananes, de canne à sucre. On est tout près de Cuba et de Saint-Domingue et dans une certaine mesure, on n'est pas loin de la Floride non plus. Pourquoi est-ce que les jeunes quittent ces territoires pour revenir en Hexagone et ne veulent pas revenir? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, c'est ce que tu viens de décrire, c'est vraiment le devant de la carte postale. Hein. C'est magnifique, hein, tout ce que tu viens de relater. Mais la réalité est tout autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sont là, qui sont des fois, qui sont quelquefois diplômés, parce qu'il y a quand même 85% des tranches de population qui possèdent le bac et qui se retrouvent sans rien. Donc, ils touchent le RSA. Malheureusement, la Martinique se trouve située dans l'archipel de la Caraïbe et les jeunes se mettent à faire du petit trafic, des petites drogues, des choses comme ça. Et c'est ça le vrai problème. En plus de cela, l'économie, la Martinique a été placée sur perfusion. 90% des produits sont des produits importés.
De la France métropolitaine.
De la France métropolitaine. L'agriculture, c'est quasiment de la monoculture de bananes.
Avec tous les problèmes que vous avez eu récemment du pesticide, là.
La chlordécone.
Qui a bousillé tous les sols.
Voilà, c'est-à-dire que les agriculteurs faisaient confiance aveugle au système.
Hein, c'est-à-dire que l'agriculture locale. Hein,
voilà, c'est ça.
Il faut le dire.
C'est ça. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec des sols pollués, avec une culture bananière exclusive. Et on a quasiment plus de canne à sucre, il y a encore de la canne à sucre, mais c'est surtout la banane. On a fait arracher des avocatiers pour planter des bananiers. Donc les gens se sont lancés dans ça parce que la banane, pourquoi la banane? Parce que c'est un marché qui a été protégé, c'est-à-dire qu'avec la politique agricole commune, c'est une banane européenne, donc les gens savent que quel que soit ce qui va se passer...
Elle est subventionnée.
Mais le problème, c'est que la banane, qui c'est qui l'a? C'est surtout les... Malheureusement, en Martinique, il y a une caste qui s'appelle la caste Béquet, qui détient quasiment le monopole des terres.
Et des propriétés foncières.
Donc du coup, et ils ont, c'est la seule culture qu'ils ont du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la production jusqu'aux mûrisseries, ce sont eux qui détiennent le tout. Donc à chaque stade, ils récupèrent du fric.
Donc tu es en train de me dire là que pour relancer l'économie du pays et offrir des emplois à tous ces jeunes, il faut faire une vraie révolution.
Eh bien, le problème, c'est que la révolution est difficile. La révolution est difficile. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes détiennent l'économique. Ça veut dire que toutes les stations essence, les supermarchés sont tenus par ces mêmes personnes. Donc, du coup, c'est très compliqué.
Est-ce que c'est ça qui explique que dès qu'il y a des manifestations en Guadeloupe ou en Martinique, et notamment en Martinique, quand même, et peut-être je me trompe, dis-moi si je me trompe, mais elles sont quand même rapidement violentes quand même. Hein.
Eh bien oui, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Ça veut dire que toutes les institutions, pour la grande majorité, sans faire de politique, sont tenues dans les administrations par des hexagonaux, hein, c'est-à-dire, et il y a des jeunes qui sont diplômés et ils trouvent qu'ils sont pas considérés. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que, je ne sais pas, il y en a qui, un des pères de la du pays Martinique, c'est Aimé Césaire, qui disait ce génocide par substitution. On est en plein dedans. Aujourd'hui, on se rend compte que le pays se déverse d'un côté, les jeunes quittent, et de l'autre côté, il y a beaucoup de Français de l'Hexagone qui viennent et qui s'installent et qui achètent des terres. Et le problème est le suivant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Pour s'enrichir foncièrement.
C'est ça. C'est ça.
Alors que les gens qui habitent sur place, parfois depuis des décennies, voire des je ne sais pas combien de temps on peut dire, mais des siècles peut-être, n'ont plus accès, n'ont plus droit au chapitre, n'ont plus droit à la propriété foncière, et au fond se retrouvent sur le bord du chemin.
Et puis on a un gros problème, c'est que le foncier, il n'a pas été pris en compte. On a énormément de terrains, il y a plus de 18 000 maisons en Martinique qui restent à l'abandon à cause des problèmes de succession. Ça coûte extrêmement cher, parce que les successions n'ont pas été résolues depuis des générations. Et aujourd'hui, quand on veut récupérer un terrain, eh bien, il y a au moins 5 ou 6 successions à payer. Donc ça reste là et ça pourrit.
Waouh. Alors là, évidemment, quand on rentre sur le chapitre dans lequel nous sommes en train de rentrer tous les deux et de discuter, on touche très vite aux politiques, au social et à l'économique, ce qui n'est pas tout à fait le but de cette émission. Mais néanmoins, on se rend bien compte de l'ampleur de la tâche qu'il y a à accomplir pour que ces territoires d'outre-mer retrouvent un équilibre économique et social, et j'ai envie de dire de paix, de justice sociale aussi. Moi, j'aimerais, avant qu'on fasse la première pause musicale, que tu me parles un peu de notre travail à nous, c'est d'apporter une ébauche de réponse. Et parmi les ébauches de réponse dont tu me parlais tout à l'heure hors studio, c'était de retravailler à faire une offre de formation intellectuelle. Professionnel aux jeunes martiniquais à travers l'université, à travers l'école. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que pour toi, finalement, monter sur place des formations qui permettraient à ces jeunes de trouver du travail et une clé de réponse, et une des réponses possibles.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser à l'offre de formation. Nous avons travaillé sur l'île depuis un moment, voire où le bât blesse, hein. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux, c'est-à-dire que la Martinique, s'il y en a certains qui sont allés, vous vous rendez compte, le problème majeur, c'est les embouteillages, beaucoup de voitures, l'environnement, la pollution, le non-respect. Donc l'idée, c'est de permettre les métiers, des licences pro qui permettent à des personnes d'être rapidement diplômées sous les métiers de l'environnement, la responsabilité sociétale de l'entreprise, le développement durable. Nous avons la chance d'être dans un endroit où nous faisons, quand la France dit qu'elle est la deuxième puissance maritime du monde, avec les Antilles, on a un spot de biodiversité parmi les 30 meilleurs spots de diversité du monde. On a de quoi faire. Et aujourd'hui, ce qui a posé un gros problème lorsqu'il y a eu une pharmacopée locale et endémique qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, on veut faire valoir cela parce qu'on est capable de se soigner par ces choses-là. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une résistance. On a une résistance et l'idée, c'est de justement sensibiliser les jeunes à cela. Et la réalité, c'est qu'il y a une demande. C'est-à-dire qu'on a des collectivités qui se rendent compte que nous sommes une île, il y a énormément de pluie et on arrive à des périodes où pendant 2 mois, il n'y a pas d'eau. Donc, le traitement de l'eau, comment utiliser l'eau de façon efficiente.
Les retenues collinéaires.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça. Et pareil, l'île, elle est magnifique. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas une éducation au développement durable.
La protection,
au traitement des déchets, sensibiliser les enfants dès la maternelle dans les classes à ce qu'ils mettent, ils trient le papier, le carton, le plastique, le verre, pour que réellement l'île soit vraiment
protégée.
Quoi.
Tu es en train de nous dire en fait que la Martinique a d'innombrables richesses naturelles et qu'il y a tout un champ d'investigation à prendre pour créer les nouveaux emplois en fait.
Absolument. Et aujourd'hui, c'est qu'il faut repenser la formation. Il faut repenser la formation, plus particulièrement la formation agricole, qui aujourd'hui ferait prendre conscience aux gens. Effectivement, on a un réel problème de société concernant l'obésité, les maladies comme le diabète, tout ce qu'il y a eu. Et on l'a vécu terriblement avec lorsqu'il y a eu la crise liée au Covid, la première vague avec le Delta. La Martinique a payé un lourd tribut. Il y a eu près de 1000 morts. En 2 mois, et c'est effectivement la majorité des gens qui ont eu cette maladie. Donc c'est vrai qu'ils ont refusé le vaccin, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gens, c'était la plus grande partie, des gens diabétiques, des gens des problèmes de tension, et c'est ça, et ça a été des problèmes d'obésité. Quoi.
Alors dans cette deuxième partie, nous allons tout d'abord faire une pause musicale avec une chanson antillaise que Étienne va nous choisir dans son immense répertoire. Et après cette deuxième partie, pendant cette deuxième partie, ce qu'on pourrait peut-être, David, dialoguer tous les deux et offrir ça à nos auditrices et nos auditeurs, c'est toi, maintenant, tu as cette idée-là de former les jeunes dans les licences plutôt professionnelles. Qu'est-ce que tu proposes en termes de partenariat avec LUCO? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ensemble? Tu es là pour ça aussi. Tu es notre représentant officiel, d'ailleurs, dans Martinique, Guadeloupe et Guyane française. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Quels sont les chemins sur lesquels tu as envie de t'investir? On se retrouve aussitôt cette pause musicale. À tout à l'heure.
Quand qui tombe les mêmes papes, mais pour y arrêter, fin coloniser l'esprit. coupé que j'ai lagué. Nous j'avive.
Individual egua, my people, they dead. My people suffer, then they pray for blessing. Individual egua, oh, my people, they dead. Then they pray for blessing.
Voilà, dans ce studio, donc David Marilus de Fort-de-France,
c'est ça,
en Martinique, qui vient de nous décrire quand même un tableau général, une global picture, comme on dit en anglais, de la Martinique, pas très réjouissante. C'est pas tout à fait les cartes postales dont on a l'habitude, David. Des challenges considérables à remonter, des enjeux importants à relever. Notamment, le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est le sujet de la formation des jeunes. Dans le cadre de licence professionnelle, donc David, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il faut faire en Martinique? Qu'est-ce que tu proposerais que nous fassions, nous, ici, dans notre vieille université angevine, en relation avec les universités qui sont en Martinique? Comment tu vois les choses?
Comment je vois les choses? Aujourd'hui, le constat que j'ai dressé, c'est que nous avons besoin de garder ces jeunes sur le territoire. Donc, on a fait un constat, hein, c'est-à-dire quelle université pouvait nous proposer quelque chose qui permettrait à des jeunes de rester sur le territoire. On s'est associé avec le CREFOP, hein, qui nous a expliqué qu'aujourd'hui, il y avait des métiers de l'environnement, donc des licences courtes, licences professionnelles. Donc on a ciblé avec Pôle emploi des demandeurs d'emploi, justement, pour les former, pour qu'après, on puisse les réinjecter dans le système pour trouver un emploi. Et la particularité, c'est que le constat qui était le suivant, c'était de me dire que quand un jeune part, eh bien, il est un peu perdu quand il arrive. Et l'idée, c'était de se
en
dire...
France métropolitaine, tu
ouais,
veux dire.
En France métropolitaine.
Lorsqu'il arrive en France métropolitaine, tu dis le jeune se sent perdu, quoi.
Se sent perdu.
Il se sent pas chez lui, en fait.
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on nous propose, entre ce qu'on nous fait miroiter, quand on est en Martinique et quand on arrive ici, eh bien, on est livré à soi-même. Et un jeune de 17-18 ans, et l'idée, c'était comment les accompagner, comment aider les parents à trouver des solutions, trouver une structure qui permettrait à ce jeune de bien se sentir, de se sentir à l'aise. Et d'où mon idée de me rapprocher de gens avec LUCO et aussi le consortium, d'accord, et aider ce jeune à trouver une solution pour son orientation, d'accord, dans un premier temps, et après voir comment on peut poursuivre un partenariat avec LUCO pour les formations de licence pro et un bachelor dans un second temps, mais cela en concertation avec tous les acteurs locaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec Pôle emploi, la collectivité, le diocèse de Martinique, pour voir comment on peut formaliser quelque chose avec LUCO.
Donc en fait, c'est une fusée à double étage. D'abord, monter des programmes en codiplomation avec l'Université catholique de l'Ouest et son expertise et les entités scolaires locales. Puis, une partie de cette formation se déroulerait en Martinique, une autre partie pourrait se dérouler à Angers, dans un cadre qui serait préétabli, bien organisé, qui rassurerait les parents et qui ferait ensuite que le jeune puisse retourner sereinement chez lui, c'est-à-dire en Martinique, avec un diplôme en poche où il serait plus facilement, plus rapidement employable. Est-ce que c'est ça dont tu parles ?
Exactement, exactement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre que le diplôme soit chapeauté par l'Université catholique de l'Ouest parce qu'il y a cette expertise et en même temps rassurer les parents en se disant que voilà, quand ils quitteront la Martinique pour aller faire leurs études, eh bien, il y a un cadre qui est déjà bien posé, bien sécurisant et qui permettrait aux jeunes de revenir dans un contexte qui sera plus sécurisé et qui permettrait tout de suite d'avoir un débouché parce Il y a une forte demande dans le secteur du développement durable et tout ce qui est la protection de l'environnement.
Alors, dans quelle filière, toi, tu verrais un développement possible entre LUCO et la Martinique? Quel type de diplôme, et tu parles de licence professionnelle, faudrait-il mettre en place?
Eh bien, d'abord, là, de façon imminente, on pense que une licence pro dans les métiers de l'environnement et la gestion et la protection de l'environnement avec le traitement de l'eau, Ça, c'est fondamental. Hein, parce que
des eaux usées, notamment.
Des eaux usées aussi, oui. Mm-hmm. Et aussi tout ce qui concerne un bachelor en éco-management et responsabilité sociétale des entreprises. Et puis tout ce qui concerne un master en biotechnologie autour de la biodiversité.
D'accord.
Voilà. Parce que nous avons un bassin où il y a énormément de travail à faire au niveau de la biodiversité, les fruits, les légumes. C'est-à-dire que nous avons des fruits qui... Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la goyave, sur la bricopéie, qui ont des vertus à la fois médicinales, qui sont des choses... On a aussi des produits de la mer qui sont d'une richesse et qui permettent de soigner certaines maladies aussi. D'accord. Et puis nous avons aussi la chance d'être dans ce bassin où il y a Cuba qui est à proximité, qui peuvent aussi nous apporter un savoir-faire. Donc dans le cadre de la coopération décentralisée, on peut travailler. Ça veut dire que tout ça, ça peut être un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire l'UCO peut nous apporter une forte expertise, mais nous, en étant dans ce bassin-là, on peut aussi être aussi un terrain d'application et d'expérimentation pour éventuellement les laboratoires de l'Université catholique de l'Ouest.
Et est-ce que ça peut inclure la Guadeloupe elle-même ?
Mais absolument, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a créé, il y a une structure qui s'appelle l'École supérieure d'éducation pluridisciplinaire, de la Martinique. Mais nous, l'idée, c'est de détendre aussi à la Guadeloupe et à la Guyane.
D'accord. Mm. Très bien. Mais alors, du coup, si tu veux, tout à l'heure, tu parlais quand même de milliers de jeunes qui quittaient la Martinique pour aller vers la métropole. Maintenant, imaginons qu'on arrive à monter des programmes qui fournissent à ces jeunes des diplômes qui les rendraient plus facilement employables sur le terrain. Mais y a-t-il un potentiel d'employabilité sur le terrain ? C'est-à-dire, si tu as 500 ou 600 jeunes chaque année, par exemple, qui sortent avec cette licence plutôt que de partir en France métropolitaine, est-ce qu'il y a la possibilité d'être employé, de trouver de l'emploi ? Et ceci rapidement. Parce qu'en fait, pourquoi les jeunes ne partent-ils et ne reviennent-ils pas ? C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi sur place.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi, mais je pense qu'il faut revoir les choses autrement. C'est-à-dire que actuellement, il y a énormément de... On a beaucoup formé les gens pour devenir des fonctionnaires.
D'accord.
Voilà. Aujourd'hui, il faut proposer, en fait, et il y a des startups, des jeunes qui proposent des choses qui peuvent être valorisantes. Et puis, s'étendre sur le bassin caribéen. Nous avons des pays à côté avec lesquels nous n'avons quasiment pas d'échange.
D'accord.
L'île de Sainte-Lucie, l'île de la Dominique, la Barbade, Trinidad. Il y a un échange à faire. Il y a plus de 2-3 millions dans la zone au-delà. Donc, du coup, ça nous...
Ah, tout l'ensemble des Caraïbes, là, c'est qu'on toutes les îles, y compris hollandaises, britanniques, françaises. Je ne sais même pas s'il y a des îles britanniques, d'ailleurs.
Oui, il y a des îles britanniques.
Il me semblait bien, oui.
Des néerlandaises aussi.
Et c'est ça. Tout ça, ça fait 2-3 millions d'habitants.
Plus même.
Et c'est considérable.
Ah oui, c'est considérable.
C'est quasiment tout le bassin parisien.
La Martinique et la Guadeloupe, c'est déjà près de 700 000 habitants.
Wow.
Après, il y a des pays comme Trinidad, comme Cuba qui a déjà près de 10 millions d'habitants, Haïti,
Saint-Dominique.
La République dominicaine aussi.
Et la Floride n'est pas très loin.
Oui, tout à fait. Les États-Unis ne sont pas loin. Donc, il y a un bassin de plus de 20, 30, 40 millions de population.
Oui, donc, effectivement, former des jeunes pour répondre aux besoins locaux pourrait être une vraie solution.
Absolument.
Donc là, tu es à la rédaction d'un dossier, tu es en train de travailler une demande officielle à faire à l'UCO.
Oui.
En gros, tu vas t'adresser au rectorat ou tu vas tenter d'exposer ses besoins, de solliciter peut-être la faculté des sciences pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Notamment, tu me disais tout à l'heure, hors antenne, que l'évêque Monseigneur Macaire, c'est ça ?
Monseigneur Macaire, oui,
était aussi partie prenante de ce projet. C'est ça, non ? Je me trompe pas.
Mais oui, Monseigneur Macaire, lui, il est devant ce constat de voir qu'il y a des jeunes qui partent. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est que les jeunes restent sur le territoire. Donc nous, on doit être force de proposition, lui proposer des formations qui existent à l'UCO de façon à ce qu'on puisse les décentraliser au départ sur la Martinique et de faire façon à ce que ces jeunes restent là. Quoi. Mm-hmm. C'est sûr qu'on ne pourra pas, sur les 5000 jeunes qui partent chaque année, on ne pourra pas retenir les 5000. Mais si on peut déjà éviter qu'il y ait cette hémorragie un peu chaque année, eh bien, ça permettrait... Parce qu'il est évident que quand on part, c'est parce qu'on n'a pas le choix.
C'est ça, bien sûr.
On n'a pas le choix. Mais si on avait à disposition tout le panel de formation sur place, on ne serait pas parti. Moi, quand je suis parti faire mon BTS, c'est parce que je n'avais pas le choix.
C'est ça. Voilà. Parce qu'au fond, toi, David, tu es heureux en Martinique. Tu aimes ce département d'outre-mer.
Oui. Moi, après 27 ans, je suis revenu dans mon biotope. Je me suis retrouvé, mais vraiment en connexion avec ma terre natale. Quoi.
C'est ça.
Et ça, c'est quelque chose qui est inévitable, même si je ne renie pas avoir passé des années magnifiques hors de mon île. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je me sens vraiment en alignement avec moi-même, quoi.
Et maintenant, tu veux rendre service aux jeunes de ton pays, tu veux faire des choses durables et pérennes, et tu veux t'inscrire dans la formation et la préparation des personnes aux métiers qui sont offerts sur place, c'est ça que tu veux faire.
Ça.
Et tu es à Angers aujourd'hui pour qu'on en discute. D'ailleurs, tu es en train de préparer un dossier qu'on va présenter prochainement à l'équipe rectorale. C'est quand même pour toi un sacré virage à 360 degrés, enfin au moins 180 degrés. C'est-à-dire, tu quittes une situation un peu confortable, tu es directeur d'établissement, tu es moniteur en maison familiale rurale, en Charente-Maritime, et là, tu t'attelles à un chantier nouveau. Je veux dire, c'est pas très sécure, quoi. Tout est à faire, en fait.
Absolument, mais c'est quoi ? C'est-à-dire que tu arrives à un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait dans cette vie où tu es de passage ?
C'est ça.
C'est de me dire, mais écoute, j'ai formé pas mal de jeunes en Charente-Maritime, j'ai travaillé aussi dans les Alpes du Sud, et je me suis dit, à un moment, j'étais en phase d'acquisition, il faut que je restitue un peu tout ce que cette île m'a donné. Cette île m'a donné la vie, je pense que j'avais des choses à amener, donc je me suis dit que pour couronner tout ça, il faut que je devienne un peu acteur aussi dans mon île, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait plein de choses pour la France hexagonale, donc j'avais envie d'être vraiment un véritable acteur. Et effectivement, ça a été facile, hein. J'étais en maison familiale pendant des années, je reste là, je cotise, et puis j'attends que la retraite vienne bien me prendre, et puis voilà, quoi. Et puis la vie se termine. C'est pas ça. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'était, j'avais envie d'être vraiment un acteur du développement de mon île.
Tout à l'heure, nous sommes allés déjeuner avec Rodrigue, notre responsable du Congo-Brazzaville, avec David, un autre David, responsable du Togo. Il y avait aussi Alcini, responsable de la Guinée. Tu as rencontré qui encore ? C'est tout, je crois. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer des gens qui sont comme toi ? En fait, ils ne sont pas dans des départements d'outre-mer, mais dans d'autres pays d'Afrique. Et en fait, au fond, sont animés de la même flamme. Comment aider la jeunesse de nos pays, de leur pays d'où ils viennent eux-mêmes ? Qu'est-ce que ça a été pour toi, cette rencontre, ce dîner ? Qu'est-ce que ça a suscité en toi ?
Eh bien, moi, en fait, je me suis retrouvé en connexion avec un pan de mon identité qu'on a essayé de bafouer. C'est-à-dire que je suis né en Martinique parce que, voilà, je n'ai pas le choix. Hein, mais je sais que j'ai toujours eu des origines qui sont multiples, hein, à la fois d'Afrique, d'Inde... d'Europe, parce que j'avais une arrière-grand-mère qui était vendéenne, j'avais une arrière-grand-mère indienne, des comptoirs de Pondichéry,
wow.
Une autre qui venait peut-être du Bénin ou du Congo, ou je ne sais plus trop. Et moi, de retrouver des frères
c'est
d'Afrique,
ça.
Je me suis dit, chapeau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours voulu nous faire croire, on nous a toujours fait croire qu'il fallait qu'on soit coupé de ce lien pour ne pas comprendre d'où on vient. Mais moi, aujourd'hui, quand je rencontre ces frères d'Afrique, moi, je suis fier de me dire que, voilà, ça y est, on va reconstituer ce puzzle.
Et on va bosser ensemble.
On va bosser ensemble pour voir comment on peut avancer, comment on peut retrouver les choses. Et on nous a tellement lobotomisés qu'aujourd'hui, je m'excuse, mais on me dit que je suis européen. C'est-à-dire que quand je suis en Martinique, on veut me faire croire qu'un Finlandais, il a plus de proximité qu'un frère d'Haïti ou de Sainte-Lucie,
c'est ça.
Ce que je trouve une aberration.
Tu as un passeport français.
Alors que j'ai un passeport français, c'est un passeport français. Ça veut dire que mon frère Saint-Lucien, il était peut-être dans le même navire de mon ancêtre, et puis on en a débarqué à Sainte-Lucie, et puis on a débarqué en Martinique.
C'est ça. Voilà. David, tu sais, la semaine dernière, j'étais en Côte d'Ivoire, j'en suis juste rentré, et j'ai longuement discuté avec mes frères ivoiriens, et tu sais, je t'ai raconté pourquoi la Côte d'Ivoire est mon deuxième pays. Et je discutais des blessures de l'histoire et du passé. Et c'était très intéressant. Et j'ai un frère prêtre responsable de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest qui me disait, tu sais, l'esclavagisme, c'est une faute collective. Vous, les Blancs, vous êtes venus nous prendre dans nos pays pour nous emmener dans vos plantations et faire du business sur notre dos. D'accord, on a très bien identifié tout ça. Les livres d'histoire en parlent très bien. Mais pourquoi est-ce que nous, on a été pris dans nos pays pour être envoyés dans les vôtres, y compris dans ceux que vous étiez en train de coloniser en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, c'est parce que certains de nos frères africains nous ont attrapés dans les villages pour les vendre aux Blancs. Et il me disait, tu sais, faire université ensemble, travailler ensemble à la formation de nos jeunes, nous, les Africains, et vous, les Européens, les Français, les Blancs, et le faire ensemble pour chercher ensemble, étudier ensemble, trouver des solutions à notre monde ensemble est un des éléments pour guérir les blessures du passé. Plutôt que de se dire, vous, la vieille université française qui allait venir ici en Afrique pour nous expliquer à nous, les petits frères, vous, on est à la même pied d'égalité. Nous avons les mêmes doctorats, les mêmes universités. Et en faisant ça ensemble, nous contribuons à faire comprendre aux générations qu'il est possible, quand on est un citoyen du monde, de travailler ensemble, de se respecter, de s'accueillir les uns les autres. Maintenant, je te pose la question, David, excuse-moi le prêche que je te fais, mais la question que je te pose, c'est toi, en tant que Martiniquais, Français, qui a une origine multiculturelle, tu me parles d'Inde, d'Afrique, et peut-être même Vendée, tu te rends compte, c'est un département juste à côté. Est-ce que tu penses que travailler à la formation des jeunes de ton département, avec des Européens blancs, excuse-moi le terme, parce que toi, tu es noir, est-ce que ça constitue pour toi un élément qui te fait avancer, alors je ne sais pas comment le dire, moi je ne suis pas un historien, mais sur un chemin de réconciliation et de guérison du passé?
Écoute, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça, parce que moi j'ai des enfants qui sont métis. Je crois que je n'ai jamais considéré la couleur de l'être humain comme un frein. Pour moi, c'est l'intelligence humaine qui prime. C'est le cœur de l'homme qui est au centre de tout, l'humain. Donc j'ai toujours considéré qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, pour moi, on est tous issus du même bois. On a du sang qui circule dans nos veines. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Donc je suis capable de travailler avec n'importe quelle nationalité, n'importe quel être humain. Mais c'est vrai que d'avoir rencontré mes frères africains aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai cette opportunité.
Ça t'a fait vibrer quand même.
Ça m'a fait vibrer.
Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu que tu vibrais par exemple déjà.
Ah ouais, je me suis dit, mais voilà, c'est la première fois.
Moi, c'est peut-être des cousins, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai travaillé très longtemps en France hexagonale, quasiment avec des métropolitains. Moi, j'étais enseignant, j'ai eu pendant des années que des métropolitains face à moi. J'étais le seul enseignant de couleur dans tous les établissements où je suis passé en maison familiale. Et je remercie les maisons familiales de m'avoir donné cette opportunité. Et j'ai été, en fait, celui qui me disait, mais voilà, on m'a donné un savoir. J'ai transformé tout cela en connaissance. Et aujourd'hui, c'est moi qui restitue à des petites têtes blanches.
C'est extraordinaire.
Voilà, c'est ça.
Tu es en train de dire un peu ce que Jean-Paul II disait très bien. Il n'y a de valeur que d'hommes.
C'est ça.
Il n'y a de valeur que d'hommes. Ce qui compte, c'est la fraternité, l'humanité et faire les choses ensemble. David, une dernière question parce qu'on arrive à la fin. Tu parles créole ?
Très très bien, bien sûr, moi qui parle créole.
Alors, tu pourrais t'adresser à toutes les personnes qui parlent créole dans la région angevine et qui écoutent Radio Campus. Dis-leur un petit quelque chose, allez, quelque chose d'espérance. Qui... Moi, je ne comprendrai pas, mais eux, ils comprendront. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, pour clôturer cette émission ?
Moi, ça m'a donné envie de dire tout ça qui a coûté, moi, tout moi, ma Martinique, tout moi, ma Guadeloupe, tout moi, ma Guyane. C'est que faut que, même si ils sont loin des cas, il faut que tu es bé, raide, parce que la vie n'est pas facile. Et que les autres, loin la Martinique, loin la Guadeloupe, loin la Guyane, ils ont un rôle pour jouer ici. Ils ont des ambassadeurs. Ils ont là pour faire peuple français à comprendre que nous pas, c'est pas parce que nous nouons que nous pas ni doit vivre en pays là. Tout le monde en est chanceux. Tout le monde, quel que soit le cas, ils ont ni la possibilité d'y montrer que ils ont des noms, ils ont des femmes d'oubout. Et que jeudi jour, j'autre chaque là qu'il a, les autres jeunes amoun, fait eux savent que la autres cavine. Il faut pas honte de dire que j'autre chez Jean Martinique, j'autre chez Jean Guadeloupe, j'autre chez Jean la Guyane. J'autre ni un bagay à fait ici. Et chaque fois j'autre jeunes amoun, fait eux savent la autres qu'a sorti, fait eux savent la autres cavine. Parce que à dans état là, à dans un bien star nous qu'a vivre là, faut pas la dire. Donc ça même pas des autres, force et puis courage et puis tchébéret pas molli.
Wow. Vive la terre des hommes et vive la fraternité entre nous. Il y a rien à rajouter. Salut à tous et à très bientôt.
Merci encore.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.